quand l'autovirus met cap au nord. Je possède vraiment le tableau décrit dans cette histoire. C'est pas bizarre, ça? C'est à ma femme que je le dois. Elle l'a vu et a pensé qu'il me plairait, ou au moins, qu'il me ferait réagir. Elle me l'a donc offert à Noël ou pour mon anniversaire, je ne sais plus. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'aucun de mes trois enfants ne l'aime. Il est accroché dans mon bureau et ils prétendent que les yeux du conducteur les suivent quand ils traversent la pièce. Petit garçon, mon frère Owen avait de même été terrifié par une photo de Jim Morrison. J'aime les histoires de tableaux qui se transforment et j'ai finalement écrit celle-là en m'inspirant de celui-ci. La seule autre fois où j'ai été ainsi inspiré par une image remonte à la maison de Maple Street, nouvelle qui fait partie du recueil « Rêves et cauchemars » et m'a été suggérée par un dessin en noir et blanc de Chris Van Allsburg. J'ai aussi écrit un roman dans lequel un tableau se transforme, « Rose Madder », celui qui a sans doute eu le plus de lecteurs, mais dont on n'a pas tiré de film. Dans « Rose Madder », l'autovirus s'appelle Norman. Richard Kinnell n'eut pas peur lorsqu'il vit pour la première fois le tableau, dans une vente de garage à Rosewood. Mais il fut fasciné, et songea qu'il avait eu la chance de trouver quelque chose de particulier. Mais d'effrayant? Nullement. Il ne lui vint pas non plus à l'esprit plus tard, trop tard, comme il aurait pu l'écrire dans un de ses propres et incroyables romans à succès, qu'il avait ressenti un peu la même chose que lorsqu'il avait tâté de certaines drogues illégales quand il était plus jeune. Il s'était rendu à Boston pour participer à une conférence du Pen Club de la Nouvelle-Angleterre intitulée « Les dangers de la célébrité ». On pouvait compter sur Le Pen pour dégoter des sujets pareils, avait constaté Kinnell. C'en était presque réconfortant. Il avait parcouru les 400 kilomètres séparant Derry de Boston en voiture au lieu de prendre l'avion parce que l'intrigue de son dernier roman était dans une impasse et qu'il voulait avoir tout le temps d'y réfléchir en cours de route. À la conférence, il tomba sur un groupe de débats bien mal inspiré. On ne trouva rien de mieux que de lui demander d'où il sortait ses idées et s'il n'arrivait pas qu'elles lui fassent peur. Il avait quitté ensuite la ville par le pont Tobin, puis emprunté la route 1. Il ne prenait jamais l'autoroute quand il tentait de démêler une intrigue. L'autoroute le mettait dans un état rêveur de quasi-somnolence. Reposant, certes, mais pas très créatif. Sa progression, entrecoupée d'arrêts et de redémarrages, s'il prenait la route de la côte, agissait en revanche comme le grain de sable introduit dans l'huître, créant une certaine quantité d'activité mentale et parfois même une perle. Certes, songea-t-il, jamais ses critiques n'emploieraient une telle métaphore. Dans un numéro d'Esquire datant d'un an, Bradley Simmons avait ainsi commencé son article sur Nightmare City. Richard Kinnell, qui écrit à peu près comme cuisine Jeffrey Dahmer, vient d'être pris d'un nouveau spasme gerbatif et a intitulé sa dernière projection vomitale « La cité du cauchemar ». La route 1 le fit donc passer par Revere, Malden, Everett et longeant la côte par Newburyport. Ensuite, juste au sud de la frontière entre le Massachusetts et le New Hampshire, il arriva dans la charmante petite ville de Rosewood. Un ou deux kilomètres après le centre, il aperçut tout un bric-à-brac d'affaires sans valeur éparpillé sur une pelouse devant une maison de style Cape Cod à un étage. Posé contre une cuisinière électrique couleur vert pomme, un panneau précisait « Vente de garage ». Des voitures étaient rangées des deux côtés de la route, créant un de ces embouteillages que les automobilistes insensibles à la mystique de ces brocantes privées franchissent en les maudissant. Kinnell, lui, adorait les ventes de garage, en particulier quand il pouvait fouiller dans les cartons de vieux bouquins qu'on y trouve parfois. Il franchit la zone embouteillée, gara son Audi devant le dernier véhicule de la file, pointé vers le Maine et le New Hampshire, et revint à pied. Une douzaine de personnes environ allaient et venaient sur la pelouse jonchée d'objets devant la Cape Cod gris et bleu. On avait planté les pieds d'un gros poste de télévision, juste à la gauche de l'allée en béton, dans des sortes de cendriers en papier qui ne faisaient absolument rien pour protéger le gazon. Dessus était posé un second panneau sur lequel on lisait « Faites une offre, vous risquez d'être étonné. Un fil électrique branché sur une rallonge partait du poste et remontait jusqu'à la porte ouverte de la maison. Une femme corpulente était assise dans une chaise longue devant l'écran, à l'abri d'un parasol publicitaire sur les rabats flottants et colorés duquel on pouvait lire « Saint-Anneau ». À côté de la femme, il y avait une table pliante où attendaient une boîte à cigares, un bloc de papier et un dernier panneau manuscrit « Paiement en liquide, pas de reprise ni d'échange ». La télé diffusait un de ces feuilletons de l'après-midi dans lesquels de beaux jeunes gens ont toujours l'air sur le point de faire l'amour sans prendre la moindre protection. La grosse femme jeta un coup d'œil à Kinnell et revint à l'écran. Elle regarda celui-ci quelques instants, puis se tourna une deuxième fois vers le nouvel arrivant. Elle avait, ce coup-ci, la bouche légèrement entr'ouverte. « Ah !» pensa Kinnell, tout en cherchant des yeux le carton à bouteille rempli de livres de poche qui devait bien se trouver quelque part. « Une fan !» Pas le moindre livre de poche à l'horizon, mais il vit en revanche le tableau, appuyé contre une planche à repasser et maintenu en place par deux paniers à linge. Et il oublia de respirer. Il le voulut sur le champ. Il s'avança avec une nonchalance feinte et mit un genou en terre devant. C'était une aquarelle, fort bien réussie d'un point de vue technique. Mais Kinnell s'en moquait. La technique ne l'intéressait pas, un fait que ses critiques n'avaient pas manqué de relever. Ce qu'il aimait dans les œuvres d'art était leur contenu. Et plus celui-ci était dérangeant, plus il aimait ça. À ce titre, l'aquarelle faisait très fort. Il mit le deuxième genou au sol entre les deux paniers à linge remplis de divers petits appareils ménagers et laissa ses doigts effleurer la vitre qui protégeait le tableau. Il jeta quelques rapides coups d'œil autour de lui, à la recherche d'œuvres semblables, mais il n'en vit aucune, rien que les chromos habituels dans les ventes de garage, bébés joufflus, vierges en prière, toutous gambadants. Il revint à l'aquarelle encadrée, et il se vit déjà retirant sa valise du coffre pour la mettre sur le siège arrière de l'Audi afin de faire de la place pour le tableau. On voyait, sur celui-ci, un jeune homme au volant d'une voiture de sport, une Grand Am, peut-être, ou une GTX, un véhicule décapotable en tout cas, qui franchissait le pont Tobin au coucher du soleil. La capote était abaissée, donnant plus ou moins un aspect d'engin de course à la voiture noire. Le jeune homme appuyait son coude gauche sur le montant de la portière et tenait le volant avec désinvolture de la main droite. Derrière lui, le ciel se confondait en une masse de couleurs, des jaunes et des gris, comme des échymoses striées de rose. Le conducteur avait des cheveux blonds et raides qui lui retombaient sur le front. Il souriait, mais ses lèvres écartées s'ouvraient non point sur des dents, mais sur de véritables crocs. Ou alors, elles ont été taillées en pointe, songea Kinnell. Il s'agit peut-être d'un cannibale ? Cela lui plut. Il aimait cette idée d'un cannibale franchissant le pont Tobin au coucher du soleil au volant d'une Grand Am. Il n'ignorait pas ce que la plupart des gens à la table ronde du Pen en auraient pensé. « Oh oui, superbe tableau pour Richard Kinnell. Il en a probablement besoin pour trouver l'inspiration. C'est une plume pour chatouiller son vieux gosier fatigué et provoquer une nouvelle projection vomitale. » Mais la plupart de ces types étaient des ignorants. Du moins en ce qui concernait son œuvre et qui plus est, des ignorants qui chérissaient leur ignorance, la chouchoutant, comme certaines personnes, inexplicablement, chérissent et chouchoutent ces avortons de clébard qui jappent hystériquement dès qu'arrive un visiteur et mordent même parfois la cheville du facteur. La peinture ne l'avait pas attiré parce qu'il écrivait des histoires d'horreur. Il écrivait des histoires d'horreur parce qu'il était attiré par des choses comme cette peinture. Ses fans lui envoyaient toutes sortes de trucs, surtout des tableaux, dont il jetait la plupart, non pas parce qu'ils étaient mauvais artistiquement, mais parce qu'ils étaient prévisibles et barbants. Il avait cependant conservé une petite céramique représentant un singe horrifié et hurlant dont la tête dépassait d'une porte de réfrigérateur et que lui avait envoyé un type d'Omaha. La sculpture était assez mal exécutée, mais cette juxtaposition inattendue avait déclenché son système d'alerte. L'aquarelle présentait un peu les mêmes qualités, mais en mieux. En beaucoup mieux, même. À l'instant où il tendait la main, dans cette seconde même, envahi par le désir de s'en emparer tout de suite, le désir de la mettre sous son bras et de proclamer ses intentions, une voix s'éleva dans son dos. « Vous n'êtes pas Richard Quinol ?» Il sursauta et se tourna. La grosse femme se tenait directement derrière lui, masquant l'essentiel du paysage immédiat. Elle avait remis du rouge à lèvres avant d'approcher, et sa bouche était transformée en un sourire saignant. « En effet, » répondit-il, lui aussi avec un sourire. Les yeux de la femme se portèrent sur l'aquarelle. « J'aurais dû me douter que vous iriez directement vers ça, » observa-t-elle en minaudant. « C'est tellement vous !»« Ah, vous trouvez ?» Il lui adressa alors son sourire modèle célébrité démasqué. « Et combien en voulez-vous »« 45 $. »« Je ne vais pas vous raconter d'histoire. J'avais commencé par le mettre à 70, mais il ne plaît à personne, et j'ai baissé le prix. Si vous revenez demain, vous pourrez probablement l'avoir à 30 $. » Ses minauderies atteignaient des proportions effrayantes. Il voyait des petites bulles de salive crever aux commissures de ses lèvres étirées. « Je crois que je ne vais pas courir ce risque, » dit-il. « Je vais vous faire un chèque tout de suite. » Le sourire mignard ne fit que s'étirer un peu plus. Elle commençait à ressembler à une caricature peu flatteuse d'elle-même. Garbeau jouant les Shirley Temple enfants. « En principe, je ne dois pas prendre de chèque, mais ça ira. » Elle avait parlé du ton dont une adolescente accepte enfin de faire l'amour avec son petit copain. « Mais puisque vous allez devoir sortir votre stylo, vous pourriez peut-être me laisser un autographe pour ma fille. Elle s'appelle Michela. »« C'est un prénom ravissant, » répondit-il automatiquement. Il prit le tableau et suivit la grosse femme jusqu'à la table pliante. Sur l'écran de télé, les deux jeunes gens sexuellement excités avaient laissé la place à une femme âgée engloutissant des céréales. Michela lit tout ce que vous écrivez. Où diable, allez-vous donc pêcher toutes ces idées ?
Je ne sais pas, répondit Quinol, le sourire plus large que jamais. Elles me viennent comme ça. Stupéfiant, non ?
La femme qui s'occupait de la vente de garage s'appelait Judy Dimond et habitait la maison voisine. Lorsque Quinol lui demanda si elle savait qui était l'auteur de l'aquarelle, elle répondit que oui, bien sûr. C'était Bobby Hastings qui l'avait peinte. Et c'était justement à cause de Bobby Hastings qu'elle vendait toutes les affaires des Hastings.
« C'est la seule qu'il n'ait pas brûlée, pauvre Iris. C'est surtout pour elle que je suis désolée. Je n'ai pas l'impression que George ait été autant touché. Et je sais qu'il n'a pas compris pourquoi elle voulait vendre la maison. »
Ses yeux roulèrent dans son visage bouffi et en sueur, l'air de dire « Pouvez-vous imaginer ça ?» Elle prit le chèque que lui tendit Quinol, puis lui donna le bloc-notes sur lequel elle inscrivait les articles vendus avec le prix qu'elle en avait obtenu.
« Écrivez-la simplement au nom de Michela, avec quelque chose de gentil, peut-être ?»
La minauderie réapparut, telle une vieille connaissance qu'on avait espéré trépasser. Quinol répondit par un grognement et rédigea son compliment habituel « Merci d'aimer mes livres ». Au bout de 25 ans de distribution d'autographes, il n'avait plus besoin de regarder sa main ou même de penser à ce qu'il faisait. « Parlez-moi un peu de ce tableau et des Hastings. » Judy Dimond croisa ses mains potelées comme quelqu'un qui s'apprête à raconter son histoire favorite.
« Bobby avait tout juste 22 ans quand il s'est suicidé au printemps dernier. Ça paraît incroyable. Il était du genre génie torturé, voyez-vous, mais il habitait toujours chez ses parents. »
Ses yeux roulèrent pour montrer une fois de plus à Quinol que tout cela était à ne pas y croire.
Il devait avoir fait 70-80 peintures, sans compter tous ses carnets de croquis. Tout ça se trouvait dans le sous-sol.
Elle eut un coup de menton en direction de la Cape Cod, puis regarda l'aquarelle où le jeune homme à l'air diabolique traversait le pont Tobin au coucher de soleil, au volant d'une voiture de sport.
Iris, la mère de Bobby, disait qu'elles étaient presque toutes vraiment mauvaises, bien plus mauvaises que celles-ci, des trucs à vous donner la chair de poule. »
Judy Dimond baissa alors la voix, jetant un coup d'œil en direction d'une femme qui examinait l'argenterie dépareillée des Hastings et une imposante collection de verres McDonald's en plastique dans la série « Chérie, j'ai rétréci les gosses ».
« Il y avait des choses sexuelles dans la plupart. »«
Oh non !» s'exclama Quinol.
« Si !» Les pires étaient celles qu'il faisait quand il avait pris de la drogue. Après sa mort, il s'est pendu dans le sous-sol, là où il peignait d'habitude. On a retrouvé une centaine de ces petites bouteilles dans lesquelles on vend cette sorte de cocaïne, le crack. Les drogues sont épouvantables, n'est-ce pas, Mr. Kinnell ?
Absolument.
Bref, je crois qu'il s'est retrouvé au bout du rouleau. Il a apporté tous ses dessins et toutes ses peintures dans l'arrière-cour, sauf celle-ci, je suppose, et il y a mis le feu. Puis il est retourné dans le sous-sol et il s'est pendu. Il avait épinglé un mot à sa chemise. Il avait écrit « Je ne peux plus supporter ce qui m'arrive ». Vous ne trouvez pas cela terrible, Mr. Kinnell ? Avez-vous jamais entendu raconter une histoire aussi affreuse ?
En effet, admit l'écrivain tout à fait sincère. C'est terrible.
Comme je le disais, George aurait continué à habiter la maison si ça n'avait tenu qu'à lui, poursuivit Judy.
Elle prit l'autographe destiné à sa fille et le posa à côté du chèque de Kinnell, secouant la tête comme si elle était stupéfaite par la ressemblance des deux signatures.
« Mais les hommes sont différents. »«
Vous trouvez ?»«
Oh oui, ils sont beaucoup moins sensibles, vers la fin de sa vie. » Ce pauvre Bobby n'avait plus que la peau sur les os. Il ne se lavait jamais, il sentait, et il portait toujours le même t-shirt nuit et jour, avec dessus une photo des Led Zeppelin. Il avait les yeux rouges, des poils sur le menton qui n'arrivaient pas à lui faire une vraie barbe, et il s'était remis à avoir des boutons comme un adolescent. Mais Iris l'aimait, parce que l'amour d'une mère permet de voir au-delà de tout ça.
La femme qui examinait un instant auparavant l'argenterie se dirigea vers eux, un jeu de sept de table, guerre des étoiles à la main. Mrs. Dement en demanda $5, décrivit scrupuleusement les objets vendus, une douzaine de protections de table assorties sur son carnet avec le prix obtenu, puis se tourna de nouveau vers Kinnell.
Ils sont partis en Arizona, dans la famille d'Iris. George a commencé à chercher du travail là-bas, à Flagstaff. Il est dessinateur industriel, mais je ne sais pas s'il en a trouvé. En tout cas, s'il en trouve, je crois qu'il y aura peu de chances pour qu'on les revoie ici à Rosewood. Elle a mis une marque sur tout ce que je devais vendre. Je parle d'Iris, et elle m'a dit de garder 20% pour ma peine. Je leur enverrai un chèque pour le solde. Il n'y aura pas grand-chose. Elle soupira.
Le tableau est sensationnel, commenta Kinnell.
Ouais! Quel dommage qu'il ait brûlé le reste, parce que tous ces autres trucs étaient exactement votre tasse de vitriol, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que c'est ?
L'écrivain venait de retourner le tableau. Une étiquette était collée à l'arrière. Le titre, je crois.
C'est quoi ?
Il prit le tableau par les côtés et le souleva de manière à ce que la femme puisse le lire elle-même. Du coup, l'aquarelle se trouva à la hauteur de ses yeux et il l'étudia avidement. Saisi une fois de plus par la bizarrerie sans apprêt du sujet. Un jeune gars au volant d'une voiture de sport. Un jeune gars arborant un sourire entendu et féroce qui révélait des dents effilées et encore plus féroces.
« Il convient très bien, » pensa-t-il.
« Si jamais un titre a convenu à une peinture, c'est bien celui-ci. »«
Quand l'autovirus met cap au nord, » lut-elle. Je ne l'avais pas remarqué lorsque mes garçons ont trimballé tout ce bazar. Vous croyez vraiment que c'est le titre ?
Ça doit. Kinnell n'arrivait pas à détacher les yeux de ce sourire mauvais.
Je sais quelque chose, disait ce sourire. Je sais quelque chose que vous ne saurez jamais. À mon avis, le type qui a peint ça devait être drogué jusqu'aux yeux,
dit-elle, l'air bouleversé. Sincèrement bouleversé, observa Kinnell.
Pas étonnant qu'il se soit suicidé et qu'il ait brisé le cœur de sa maman.
« Moi aussi, je dois mettre cap au nord, » répondit Kinnell en plaçant la peinture sous son bras.
« Merci pour... Mr. Kinnell !»«
Oui ?»«
Puis-je voir votre permis de conduire ?»
Apparemment, elle ne trouvait rien d'ironique ou de comique à sa requête.
« Je dois écrire le numéro au dos du chèque. »
Kinnell reposa la toile pour prendre son portefeuille.
« Bien sûr !»
La femme qui venait d'acheter les sets de table s'était arrêtée un instant pour regarder le feuilleton qui passait à la télé. Elle tourna la tête et examina le tableau que l'écrivain avait appuyé contre sa jambe. Elle émit un bruit écœuré.
« Comment peut-on avoir envie d'un truc aussi moche ? Je ne pourrais pas éteindre la lumière sans y penser si je l'avais chez moi. »
« Et alors ? Serait-ce si mal ?» riposta Kinnell. La tante de Kinnell, Trudy, habitait la petite ville de Wells, à une dizaine de kilomètres au nord de la frontière entre le Maine et le New Hampshire. Kinnell emprunta la sortie enroulée en boucle autour du château d'eau du Patelin, édifice d'un verre éclatant qui affichait une devise se voulant humoristique « Le Maine, dépensez beaucoup, polluez pas du tout », en lettres hautes d'un bon maître. 5 minutes plus tard, il s'engageait dans l'allée d'une petite maison coquette comme une bonbonnière. Pas de télé pour écraser le gazon ici, seulement les accueillants massifs de fleurs de tante Trudy. Kinnell avait besoin de faire pipi et n'avait pas voulu se soulager dans une des aires de repos en bordure de route alors qu'il pouvait venir jusqu'ici. Mais il avait aussi envie d'une remise à jour de tous les commérages concernant la famille. À ce titre, tante Trudy était la meilleure. Elle était au commérage ce que le Stetson était au cow-boy, une institution. Et, bien entendu, il tenait également à lui montrer sa dernière acquisition. Elle vint à sa rencontre, le serra dans ses bras et lui couvrit le visage de ses petits becs d'oiseaux, ceux-là même qui le faisaient frissonner de la tête aux pieds quand il était gamin. « Tu veux que je te montre quelque chose ?» lui demanda-t-il. « Tu vas en perdre ta petite culotte. »« Quelle charmante métaphore !» répliqua-t-elle, resserrant les bras contre elle et le regardant avec amusement. Il ouvrit le coffre et en sortit l'aquarelle. Elle fit de l'effet à tante Trudy, d'accord, mais pas comme il s'y était attendu. Son visage perdit brusquement toute couleur, phénomène qu'il n'avait jamais observé de sa vie. « C'est horrible !» dit-elle d'une petite voix qu'elle avait du mal à contrôler. « Il me fait horreur. Je crois que je peux voir ce qui t'a plu là-dedans, Richie. Mais toi, tu ne fais que jouer. Lui, c'est pour de vrai. Remets ce truc dans ton coffre comme un bon garçon, et lorsque tu arriveras à la rivière Saco, arrête-toi sur le bas-côté. Balance-moi ça à la flotte !» Il en resta bouche bée. Elle était obligée de pincer les lèvres pour contenir leur tremblement, et ses longues mains fines s'agrippaient à présent à ses coudes comme pour les empêcher de s'envoler. Elle n'avait plus l'air d'avoir 61 ans, mais 91. « Tati ?» fit Kinnell d'un ton hésitant, ne sachant pas très bien ce qui se passait. « Quelque chose ne va pas, Tati ?»«
Oui, ça »
dit-elle, détachant sa main droite pour montrer le tableau.
« Je suis étonnée que tu ne le ressentes pas davantage toi-même, imaginatif comme tu l'es. »
À vrai dire, il avait bien ressenti quelque chose, c'était évident, sans quoi il n'aurait jamais commencé par sortir son carnet de chèques. Tante Trudy, elle, éprouvait des sentiments différents cependant, ou peut-être quelque chose de plus. Il tourna le tableau de manière à le regarder à nouveau. Il l'avait tendu vers elle et ne voyait que le dos avec l'étiquette. Ce qu'il vit l'atteignit comme un doublé droite-gauche au foie et à l'estomac. L'aquarelle avait changé, le coup au foie. Pas beaucoup, mais changé de manière indiscutable. Le sourire du blondin s'était élargi, révélant le reste de ses dents effilées de cannibale. Il avait les yeux un peu plus plissés aussi, ce qui donnait à son visage une expression plus mauvaise et entendue que jamais. L'agrandissement d'un sourire. La vision légèrement plus complète d'une dent effilée, le plissement accentué des yeux. Rien que des choses très subjectives en réalité. On pouvait se tromper sur ce genre d'éléments et il devait reconnaître qu'il n'avait pas étudié la peinture en détail avant de l'acheter. Sans compter qu'il y avait eu le bavardage de Mrs. Dimont qui aurait épuisé un sourd. Mais il y avait le deuxième coup, celui à l'estomac, lequel n'avait rien de subjectif. Dans l'obscurité du coffre, le blondinet avait fait pivoter son bras gauche, celui qui dépassait de la portière, si bien que Kinnell voyait à présent un tatouage resté jusqu'ici dissimulé. Il représentait un pampre de vigne s'enroulant autour d'une dague à la pointe ensanglantée. Dessous, une inscription. Kinnell put lire seulement le début, la mort, plutôt. Et il se dit qu'il n'y avait pas besoin d'être grand clerc, même pas un romancier à succès pour deviner la suite. Que le déshonneur. C'était bien le genre de devise, après tout, qu'un enfant de malheur comme celui du tableau avait toutes les chances de se faire tatouer sur le bras. Je parie qu'il y a un as de pique ou une plante en peau sur l'autre, songea-t-il. Tu le détestes, n'est-ce pas, Tati ?
Oui !
Il vit alors quelque chose qui le surprit encore davantage. Elle s'était détournée de lui, faisant semblant de regarder la rue, laquelle somnolait déserte sous le soleil de plomb de l'après-midi, pour ne pas avoir à contempler le tableau.
« En vérité, ta tante l'a en horreur, Richie. S'il te plaît, range-le et rentrons à la maison. Je parie que tu as besoin d'aller au petit coin. »
Tante Trudy recouvra tout son savoir-faire à l'instant même ou presque où le coffre se referma sur l'aquarelle. Ils parlèrent de la mère de Kinel, qui habitait Pasadena, de sa sœur, installée à Bâton Rouge, et de son ex-femme, Sally, qui campait à Nashua. Sally était un cas dans son genre. Elle dirigeait un abri pour animaux abandonnés depuis son mobil-home et publiait deux lettres d'information mensuelles. La première, Survivors, était bourrée d'infos astrologiques et d'histoires supposées authentiques de contact avec le monde spirituel. La seconde, Visitors, rapportait les dépositions de personnes qui auraient eu des rencontres du troisième type avec des extraterrestres. Cela faisait longtemps que Kinel n'allait plus aux conventions de fans spécialisées dans la science-fiction et l'horreur. Avoir eu une Sally dans sa vie, disait-il parfois, lui avait suffi. Lorsque Tante Trudy le reconduisit à sa voiture, il était 4h30 et il venait de refuser l'incontournable invitation à rester dîner. « Je pourrais faire l'essentiel du chemin à la lumière du jour si je pars tout de suite », donna-t-il comme argument. « Très bien. Et je suis désolé de m'être montré aussi agressive pour ton tableau. Je comprends qu'il te plaise, évidemment. Tu as toujours aimé ce genre de bizarrerie. Je l'ai simplement mal pris. Cette tête horrible !» Elle frissonna. On aurait dit qu'on le regardait vraiment et qu'il nous rendait notre regard. Kinel sourit et l'embrassa sur le bout du nez. « Tu ne manques pas d'imagination toi-même, mon cœur. »«
Bien sûr, puisque cette famille. »«
Tu ne prends pas tes précautions avant de partir ?»«
Non, merci, » dit-il en secouant la tête. « Ce n'était pas pour ça que je m'étais arrêté, d'ailleurs. »«
Ah bon ? Et pourquoi ?» Il sourit. « Parce que tu sais toujours qui s'est bien conduit et qui s'est mal conduit, et que tu n'hésites pas à le dire. »«
Allez, allez, file maintenant !»
dit-elle en le poussant par l'épaule, mais manifestement ravie.
« Si j'étais toi, je ne traînerais pas. Je n'aimerais pas trop savoir ce type derrière moi dans l'obscurité, même si c'est celle du coffre.
Enfin, tu n'as pas vu ses dents ?»«
Brrr !»
Il s'engagea cette fois sur l'autoroute, renonçant au paysage pour gagner du temps, et arriva jusqu'à l'aire de repos de Gray avant de décider de s'arrêter pour jeter un nouveau coup d'œil au tableau. Sa tante lui avait communiqué un peu de son malaise, comme on transmet un microbe, mais il ne pensait pas que c'était là le problème. Le problème était que sa perception du tableau avait changé. L'aire de service proposait les délices gastronomiques habituels, hamburger Roy Rogers et crème glacée TCBY, et comprenait à l'arrière une petite zone jonchée de détritus réservée aux pique-niqueurs et aux toutous. Kinel se rangea près d'un van portant des plaques du Missouri, prit une profonde inspiration et descendit. Il avait choisi d'aller à Boston en voiture pour venir à bout de Gremlins bousilleurs d'intrigues, ce qui ne manquait pas d'ironie. Il avait passé son temps à l'aller à réfléchir à ce qu'il répondrait à la table ronde, si on lui posait des questions un peu coriaces, mais il n'y en avait pas eu une seule. Une fois admis qu'il ne savait pas où il pêchait ses idées et que, oui, il arrivait qu'elle lui fasse peur. Il n'avait plus voulu savoir qu'une chose, comment on se trouve un agent. Et à présent, sur le chemin du retour, il ne parvenait pas à penser à autre chose qu'à ce foutu tableau. Avait-il vraiment changé? Si oui, si le bras du blondinet s'était encore déplacé suffisamment pour que lui, Kinel, puisse lire la suite de la devise tatouée partiellement cachée auparavant, il pourrait alors pondre un article pour l'une des feuilles de chou de Sally, 3 ou 4 même. Si au contraire rien n'avait changé, eh bien quoi? Il aurait été victime d'une hallucination? D'un début de dépression nerveuse? Des conneries, tout ça. Il menait une vie pépère et il se sentait bien, ou du moins, il s'était senti bien jusqu'au moment où sa fascination pour le tableau avait commencé à se transformer insidieusement en quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre. « Ah, merde, tu l'avais mal regardé la première fois, c'est tout », marmonna-t-il en descendant de voiture. « Bon, peut-être. Peut-être. » Ce ne serait pas la première fois que ses perceptions lui auraient joué un tour. C'était un autre élément de sa personnalité. Parfois, son imagination avait tendance à... eh bien... à déborder, dit-il en ouvrant le coffre. Il en sortit le tableau et l'examina. Et c'est au cours des 10 secondes que dura cet examen, 10 secondes pendant lesquelles il oublia de respirer, qu'il se mit à avoir réellement peur. À avoir peur, comme lorsqu'on entend un froissement soudain dans les buissons, peur comme lorsqu'on voit une araignée venimeuse prête à vous piquer à la moindre provocation. Le blondin lui adressait à présent un sourire dément. Oui, il lui souriait à lui, Kinel, il en était sûr, de toutes ses dents effilées de cannibale. Ses yeux riaient et le foudroyaient simultanément, et le pont Tobin avait disparu, tout comme la perspective des gratte-ciels de Boston et le coucher de soleil. Il faisait presque complètement noir sur la toile à présent. La voiture et son conducteur n'étaient éclairés que par un lampadaire qui diffusait sa lumière jaunâtre sur la chaussée et les chromes du véhicule. Kinel avait l'impression que la grande âme, cette fois il était à peu près certain que c'en était une, se trouvait aux limites d'une petite ville de la route 1. Et il était forcément convaincu de reconnaître le patelin en question, il l'avait traversé seulement quelques heures auparavant. « Rosewood » bredouilla-t-il. « C'est Rosewood, j'en suis sûr. » L'autovirus voyageait bien en direction du nord, en empruntant la route 1 comme lui-même l'avait fait. Le bras gauche du blondin dépassait toujours de la portière, mais il avait pivoté et repris sa position initiale, si bien qu'on ne voyait plus le tatouage. Kinel savait cependant qu'il y était, non ? Tiens, tardi. Le conducteur avait tout à fait l'allure d'un fan de Metallica qui se serait échappé d'un asile de fous dangereux. « Bordel !» murmura Kinel, qui eut l'impression que le mot n'était pas sorti de sa bouche mais venait d'ailleurs. Il se sentit soudainement vidé de toutes ses forces. Vidé, comme si elles avaient été de l'eau et lui un seau avec une bonde qui venait de s'ouvrir dans le fond. Il s'assit pesamment sur le bout de trottoir qui séparait le parking du promenoir à Kleps. Il venait de comprendre tout aussi soudainement qu'il tenait la vérité qui lui avait toujours manqué dans ses œuvres de fiction, que c'était précisément de cette façon que réagissaient les gens quand ils se trouvaient confrontés à quelque chose que la raison ne pouvait expliquer. On avait l'impression de saigner à mort, mais seulement à l'intérieur de sa tête. « Pas étonnant que le type qui a peint ça se soit suicidé » coassa-t-il, contemplant toujours la peinture, le sourire féroce, les yeux au regard à la fois madré et stupide. Il avait épinglé un mot à sa chemise, avait dit Mrs. Dimont. « Je ne peux plus supporter ce qui m'arrive. »«
Vous ne trouvez pas cela terrible, Mr. Kinel ?»«
Eh bien oui, c'était terrible. Vraiment terrible. » Il se releva, tenant l'aquarelle par le haut, et traversa le promenoir à Kleps. Il regardait devant lui sans détourner un instant les yeux, attentif à détecter les mines antipersonnelles canines. Mais il ne jeta pas un seul coup d'œil à la peinture. Ses jambes tremblaient et il se demanda si elles allaient continuer à le porter, mais en fin de compte, elles ne le trahirent pas. Juste devant lui, près de la ceinture d'arbres qui entourait l'aire de repos, se promenait une charmante jeunesse en short blanc et débardeur rouge. Elle tenait en laisse un cocker. Elle commença par adresser un sourire à Kinel, puis vit l'expression de son visage. Les lèvres de la jeune fille reprirent très vite leur position normale, et elle obliqua tout de suite vers la gauche. Le cocker n'était pas d'accord pour écourter sa promenade et elle dut tirer sur la laisse, étranglant à moitié l'animal. La pinède émaillée de fourré qui bordait l'aire de service descendait ensuite en pente vers une zone marécageuse qui empestait la végétation et les bestioles en décomposition. Le tapis d'aiguilles de pin était jonché de détritus. Un véritable bombardement d'emballages de hamburgers, de gobelets en carton, de serviettes en papier TCBY, de canettes de bière, de bouteilles vides, de mégots de cigarettes. Il vit un préservatif usagé comme un escargot mort à côté d'une petite culotte déchirée, avec maladroitement brodé dessus le mot « mardi ». Une fois là, il risqua un nouveau coup d'œil au tableau, se préparant à y découvrir d'autres changements, s'attendant même à le voir bouger, comme un film, dans un cadre. Mais il ne remarqua rien. « Pas la peine d'ailleurs, se dit Kinel. La tête du blondinet suffisait. Ce sourire dément de mec pété. Ses dents taillées en pointe. Un visage qui disait « Hé, vieux schnock, devine quoi ? J'en ai ras-le-bol de me faire chier avec cette civilisation. Je suis un représentant de la véritable génération X, moi, le mec au volant de cette machine sensationnelle. » La première réaction de tante Trudy en voyant l'aquarelle avait été de lui conseiller de la balancer dans la rivière Saco. Tati avait raison. La Saco était maintenant à une trentaine de kilomètres derrière lui, mais ça fera l'affaire ici. Ça fera très bien l'affaire. Il souleva le tableau encadré comme s'il brandissait un trophée à l'intention des photographes après un match et le lança le long de la pente. Le cadre tourna sur lui-même deux fois, la vitre renvoyant de brefs éclairs dans la lumière brumeuse déclinante, puis il heurta un tronc d'arbre. Le verre protecteur explosa. L'aquarelle tomba au sol, puis se mit à glisser sur les aiguilles de pin qui tapissaient la pente avant de s'enfoncer pour finir dans la partie marécageuse. Un angle du cadre dépassait encore entre l'épais rideau de roseaux. Sinon, on ne voyait plus que les fragments de verre éparpillés qui, aux yeux de Kinel, ne juraient pas au milieu de tous les détritus. Il fit demi-tour et regagna sa voiture ayant déjà empoigné sa truelle mentale. Il allait emmurer l'incident dans une cache spéciale, pensa-t-il, sur quoi il se dit que c'était probablement ce que faisaient la plupart des gens quand ils vivaient quelque chose dans ce genre. Les menteurs et les vantards couchaient leur délire sur le papier pour des publications comme Survivors et affirmaient n'avoir rien inventé. Mais ceux qui tombaient sur des phénomènes authentiquement paranormaux fermaient leur gueule et s'emparaient de leur truelle. Car lorsque des fissures de ce genre apparaissent dans votre vie, il faut bien faire quelque chose, sans quoi elles ont tendance à s'élargir et, tôt ou tard, tout dégringole par là. Kinel leva les yeux et vit la jolie petite jeunesse qui le regardait avec appréhension depuis ce qu'elle devait penser être une distance suffisante. Quand elle se rendit compte que lui aussi la regardait, elle fit demi-tour et prit la direction du restaurant, tirant toujours sur la laisse du cocker et s'efforçant d'atténuer autant que possible le balancement de ses hanches. « Tu me prends pour un cinglé, n'est-ce pas ?» pensa Kinel. Il se rendit compte qu'il avait laissé son coffre ouvert, béant comme une gueule. Il le referma sèchement. « Comme une bonne moitié des lecteurs de fiction de ce pays, je parie. Mais je suis pas cinglé, absolument pas. J'ai juste commis une petite erreur, c'est tout. Celle de m'arrêter dans une vente de garage où je n'aurais pas dû mettre les pieds. Une petite erreur que n'importe qui aurait pu commettre, y compris toi. Et ce tableau ?»« Quel tableau ?» demanda Rich Kinel à la chaude soirée d'été, essayant de sourire. « Je ne vois pas le moindre tableau ici. » Il se glissa derrière le volant de l'Audi et lança le moteur. Il consulta la jauge d'essence. Elle était passée en dessous de la moitié. Il allait devoir faire le plein avant d'arriver chez lui, mais il pouvait attendre encore un peu. Pour l'instant, il n'avait qu'une envie, mettre un certain nombre de kilomètres, le maximum même, entre lui et la fondrière où gisait le tableau.